grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Et le conseil familial des grandes voix, Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carreau a décidé de passer au sujet allemand, puisque les Allemands ont le cœur lourd, hein, comme lorsqu'un être bien-aimé part prendre son train après un long séjour qui a bien apaisé des tensions dans la famille. Mutti s'en va. Angela Merkel quitte la chancellerie après avoir été sans doute l'un des chanceliers les plus aimés, même dans le cœur des jeunes, hein, qui disent encore aujourd'hui que si elle se représentait, ils voteraient pour elle, les yeux fermés. D'après un cadre de la CDU, nous sommes devant l'élection la plus incertaine de ces dernières décennies. Ce genre de cas de figure où on ne connaît pas le nom du chancelier à la fin du scrutin. Aux dernières projections, le ministre des Finances Olaf Scholz du SPD de centre-gauche est devant les autres avec 25%. Merkel, elle pousse Armin Laschet CDU actuellement à 23%, des scores historiquement bas pour le pays. Mutti s'en va, soit. Elle laisse certains Allemands orphelins, soit. Mais quel bilan laisse-t-elle en général ?
Un mauvais bilan. Alors, je trouve, moi, je ne suis pas de ceux qui vont laisser, qui ont le cœur lourd, comme vous l'avez dit. Je ne dis pas au revoir Mutti à la larme à l'œil. Pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait deux choses qui sont préjudiciables. L'une préjudiciable à la planète et l'autre préjudiciable effectivement à l'Europe. Celle qui est préjudiciable à la planète, c'est la décision idéologique ou opportuniste qui a été prise dès qu'elle est arrivée au pouvoir de donner la tête du nucléaire au vert allemand. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait en Allemagne depuis ? On a bazardé les centrales nucléaires, on a remis le charbon à mort, et le charbon, et regardez les résultats, et nous, on a des écolos ici qui voudraient faire la même chose, alors que le nucléaire ne pollue pas, et on a la chance, due au général de Gaulle, d'avoir ce nucléaire, et ils ont réussi à abolir. Donc, première grosse erreur, je ne lui pardonne pas le retour du charbon. Et deuxièmement, la crise migratoire de 2015, on l'a dit à l'époque, mais on ne l'a pas assez dit. On en a vu après les conséquences. Et alors, pour les Allemands, ça n'a pas été si mal que ça, parce qu'ils ont réussi, effectivement, ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils avaient besoin de jeunes main-d'œuvre, ils ont réussi à les intégrer, ils ont mis les moyens. Mais pour le monde...
Mais encore 50% de ceux qu'ils ont reçus sont toujours
hors emploi. Mais pour le monde,
hein.
Et pour le terrorisme, oui. Et pour, par exemple, le Bataclan, on voit que parmi ceux, le million de migrants, oui. Dans lequel il n'y avait, on nous a baratiné, on nous a dit,
et tout est parti de l'image.
Ce sont des pauvres gens. Oui, on nous a dit, ce sont des pauvres gens, des pauvres Syriens sans patrie. On a aujourd'hui vu qu'il y avait effectivement plus du tiers de ces migrants qui n'étaient pas du tout des Syriens, qui étaient des gens qui se sont engouffrés, et parmi eux des terroristes. Je trouve que c'était une erreur gravissime. Elle l'a fait sans aucune concertation avec la France, malgré les liens spéciaux entre la France et l'Allemagne. Et finalement, après, on a essayé de bricoler, d'en ramasser quelques-uns, etc. Je trouve que les deux choses sont rédhibitoires pour un chef d'État.
Bon, alors, Gérard a sorti son AK-47, Michel.
Oui, moi, je m'arrête sur l'immigration. Gérard, je te fais remarquer que pendant cette campagne, la campagne qui vient d'avoir lieu en Allemagne, on a parlé une fois d'immigration, et que l'immigration est devenue le huitième sujet dans l'intérêt des Allemands. Ce qui prouve que finalement, elle a pas mal réussi son coup, et finalement, elle a pas mal réussi ce million d'immigrés.
Je ne suis pas d'accord.
D'accord, enfin, je voulais faire simplement un peu de sensibilité. Moi, je dois dire, Merkel est pas un ovni politique, comme le dit sa biographe, mais Merkel restera dans l'histoire de l'Allemagne, pas seulement parce que c'est une femme, mais surtout parce qu'elle vient de l'Est, qu'elle a passé 35 ans en Est, et que c'est la seule qui fait les liens entre les deux Allemagnes, et que finalement, elle a montré plus de doigté, plus de compréhension que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes ne l'auraient fait à sa place. Et en plus, on finit pas à 80% d'opinion favorable si on est vraiment nul.
Oui, c'est un bilan nuancé. C'est un bilan beaucoup plus nuancé qu'on veut bien le dire. Il y a d'abord un bilan positif par le fait qu'elle a 16 ans de stabilité à la tête de l'Allemagne. Et c'est un apport considérable pour la situation de politique intérieure allemande. Ça, c'est indéniable. On peut guère le discuter. Maintenant, en ce qui concerne justement l'immigration et l'entrée, porte ouverte pour 1 million de réfugiés. Bon, c'est ce qui est en train d'affaiblir justement son parti, la CDU. Car la réaction justement d'une partie de l'opinion publique allemande est d'avoir fait renaître l'extrême droite. Et c'est cette extrême droite qui affaiblit aujourd'hui la CDU. Et elle rame d'ailleurs en ce moment, en permanence à la télévision, pour aider le leader de son parti qui risque de ne plus être dans la coalition. On va voir d'ailleurs une coalition extrêmement bricolée entre les Verts, le SPD, c'est-à-dire la gauche allemande, enfin une gauche à l'allemande aussi, ça aussi il y a beaucoup à dire là-dessus, et aussi l'apport du parti qui est favorable au patronat. C'est cette coalition-là qui peut, de toute façon, qui va être le partenaire de la France. Car le couple, dans cette affaire, le couple franco-allemand, est essentiel pour la marche de l'Europe. N'oublions pas qu'entre la France et l'Allemagne, c'est 150 millions d'habitants, 150 millions d'Allemands et de Français, sur 450 millions d'Européens. Et qu'entre la France et l'Allemagne, c'est 47% de l'économie de la zone euro. Donc, le couple devra fonctionner obligatoirement, d'autant plus que la France prend la présidence, comme l'a dit tout à l'heure Gérard, prend la présidence de l'Europe.
Vous parlez du couple franco-allemand. Merkel, on ne l'a pas beaucoup entendu sur l'histoire des sous-marins français d'ailleurs. C'est assez étonnant.
Mme van der Leyen est intervenue là-dessus.
Non, il n'y a pas que... Il y a son conseiller diplomatique
qui est intervenu
hier pour dire que c'était une insulte à un partenaire de l'OTAN. Bon. Parce que là, je crois au contraire que Mme Merkel, elle est très secouée par cette histoire, non pas à cause des Français tout ça, mais pour le principe, parce que cette nouvelle alliance de l'AUKUS, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Australie
et les États-Unis,
c'est une sorte d'OTAN bis. Oui. Et donc, c'est contre les alliés. Elle a pris ça comme une mauvaise...
Et après l'Afghanistan.
Elle a pris ça comme une très mauvaise chose. Et donc, en plus, si elle a toujours freiné sur les propositions françaises de créer une défense indépendante de l'Europe, elle disait... On veut bien créer une défense européenne, mais au sein de l'OTAN. C'était un apport multi, voilà, de l'Europe au sein de l'OTAN. Et là, elle s'aperçoit que là, ce que fait le nouveau pouvoir américain, d'abord, ça les choque beaucoup. Elle est très et donc ça met une distance et voilà, elle regarde plus l'Amérique comme elle la regarde. Oui. Voilà.
Et puis il y a aussi autre chose aussi, Pierre, qu'il faut souligner justement dans le bilan nuancé sur l'Europe. Sur le plan européen, elle fait une très belle sortie, en ce sens où c'est elle qui a été motrice dans le plan de relance. Sur le plan de
ils ont été deux pour le plan de relance. S'il n'y avait pas le starter, sur le plan de relance, s'il n'y avait pas eu le starter Macron, on peut lui dire au moins ça, elle n'aurait pas bougé. Elle bouge toujours au bout d'un moment, Merkel.
Mais elle pouvait ne pas bouger aussi. Or, elle a bougé. Et en cela, elle fait une belle sortie. Sauf qu'elle a mutualisé donc les dettes sur le plan des conséquences de la pandémie. Mais en revanche, sur la question de la dette souveraine, elle a cassé l'Europe. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, elle a créé deux zones en Europe. L'Europe du Sud, n'oublions pas, dans laquelle il y a la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. C'est l'Europe du Sud, l'Europe des pauvres. Et elle les a assassinés quasiment sur ce plan-là. Il faut quand même le souligner, il faut se le rappeler sur ce plan-là.
Alors reste dans l'avenir. Que la coalition, on ne sait pas du tout ce que ça va être en Allemagne, on ne sait pas quelle coalition, parce que finalement, maintenant, le leader du CDU est très proche du leader du Parti socialiste allemand. Donc, il y a deux points d'écart, vous l'avez dit vous-même. Finalement, la composition de la coalition est toujours très difficile à faire en Allemagne. Ça peut beaucoup gêner Emmanuel Macron, lequel prend la présidence de l'Europe et qui peut, au lieu d'en tirer immédiatement profit, être au contraire entraîné dans les profondeurs d'une coalition que l'Allemagne ne sera pas capable de monter.
Une pause, les grandes voix. On revient dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix avec Charles Villeneuve, Gérard Kerrou, Michel Cotta et Catherine. Angela Merkel s'en va, mais pas tout de suite.
Ah ben non, parce que là, vous savez, il va y avoir les élections demain et puis le parti... Celui qui est en tête, le chancelier sera. Mais après, il faut discussion de coalition. Ça peut durer très longtemps.
Absolument.
Rédaction d'un programme, le traité, pour faire valider par chaque parti, doit valider par la base. Réunion après en Bundestag et tout ça. Mais ça peut prendre des mois. Oui. Et moi, je dis, ça pourrait arriver que la chancelière soit encore à la chancellerie, alors que Macron sera élu ou battu.
Mais, oui, mais très affaibli.
Très affaibli. L'autre fois, ils ont mis cinq mois. Ils ont mis 5 mois à constituer le gouvernement.
Et alors
Nous sommes quasiment en novembre. Hein. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de gouvernement allemand, de chancelier en situation de gouverner jusqu'au mois de mars. Oui. Or, le mandat de Macron commence effectivement en janvier et il se terminera en juin.
Oui,
donc ça veut dire que pendant la moitié du mandat de Macron, il n'y aura pas d'interlocuteur allemand qui permettra de faire jouer le poids de l'Alliance et donc d'avoir des décisions.
Donc ça risque pour sa présidence européenne, c'est un problème.
Non mais ça montre bien qu'il faudra longtemps d'abord ce que vient d'expliquer Catherine et Gérard. Et il faut y ajouter, non seulement ce sera, si vous voulez, ça mettra un certain temps pour mettre au point la nouvelle méthode de travail avec le nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière, mais surtout, pour la première fois, le couple franco-allemand sera seul aux commandes, en ce sens où il n'y a plus les Anglais.
Oui, mais justement,
ça, c'est très important.
Justement, ça veut dire que la paralysie, le mandat de Macron peut être davantage paralysé par la présence d'une chancelière en fin de course et qui expédiera les affaires courantes. Donc c'est vrai que c'est objectivement ennuyeux pour Macron si la coalition allemande met trop de temps à s'installer.
Et sans le couple franco-allemand, ça ne fonctionne plus.
Oui, enfin, avoir une coalition. On répète inlassablement depuis 20 ans que rien ne serait possible en Europe s'il n'y avait pas le couple franco-allemand. Et là, on va avoir un couple quand même qui va être bizarre avec un président en fin de mandat, en campagne électorale, et une chancelière qui est partie, donc, ou qui assume l'intérim en attendant le successeur. Je veux dire, l'Europe qui déjà vient d'être ridiculisée par l'histoire des sous-marins, parce que c'est bien de ça dont il s'agit.
Et l'Afghanistan.
Et l'Afghanistan. Je veux dire par là que l'Europe, aujourd'hui, ceux qui étaient européens de conviction, et je l'ai été moi pendant longtemps, aujourd'hui, il y a quand même
vous changez d'avis.
Nature à s'interroger sur la possibilité de l'Europe de se faire de manière satisfaisante.
On voit, pour revenir au début, que dans le débat, Mélenchon-Zemmour, ils étaient d'accord sur le fait de sortir de l'OTAN et de prendre ses distances avec l'Europe dans une souveraineté retrouvée. Donc ça, à mon avis, la période-là est très importante de ce point de vue-là.
Merci beaucoup les grandes voix. Merci à vous Michel Cotta, Catherine Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je vous rappelle aussi que Éric Zemmour, puisqu'on en parle, sera l'invité du Grand Rendez-vous à 10h demain sur Europe 1. Bonjour mon cher Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Alors ce matin, on va vous mettre à la cuisine végétarienne. Mais attention, celle qui rassemble et qui est joyeuse. Nous allons aussi recevoir Zabou Bretman et on va partager un joli plat du jour de saison avec elle. On vous attend. À tout de suite.
À tout de suite.